Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode pour inaugurer la première interview de YogiBiz Podcast et c'est Charlotte Myriel alias Little Blue Kiwi sur Instagram qui me fait le plaisir d'être ma première invitée. Inspirante, généreuse, perfectionniste et authentique, Charlotte nous livre aujourd'hui sa rencontre avec le yoga, son chemin vers l'enseignement et ses premiers pas de professeur de yoga. Comment faire face à la peur de se lancer, trouver sa légitimité et des conseils autant empreints de sagesse que de franc-parler pour commencer et nourrir son enseignement. Charlotte nous dévoile également son expérience du yoga en live, ce que cela lui a apporté, la différence d'approche entre un enseignement physique ou en ligne. De comment gérer le stress d'un live Instagram aux stratégies pour tourner ses vidéos de yoga, attendez-vous à faire le plein de pépites et de conseils tirés de son expérience. On décryptera également les clés du succès de son compte Instagram à plus de 10 000 abonnés avant d'aborder ses projets de la rentrée. Que vous soyez élève, futur prof ou prof de yoga, cet épisode est fait pour vous si vous voulez découvrir les coulisses de Charlotte. Et je laisse place tout de suite à notre conversation. Salut Charlotte et bienvenue sur YogiBiz Podcast. Écoute, je suis ravie d'inaugurer avec toi le format interview sur le podcast et je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation.
Ben merci à toi surtout.
Aujourd'hui, on va parler donc de ton parcours et de tes débuts en tant que prof de yoga, parce que pour tout te dire, quand j'ai annoncé que j'allais recevoir une prof de yoga en interview sur le podcast sans dévoiler le nom de mon invité, j'ai reçu vraiment beaucoup de questions sur comment commencer à enseigner, comment trouver ses premiers élèves, comment trouver son premier studio, les erreurs à éviter, les meilleurs conseils. Donc voilà, je pense que j'ai une audience de futurs profs et de jeunes professeurs de yoga qui sont très en attente du partage de ton expérience. Donc voilà, on va aborder cette partie-là de ton parcours. Et puis, alors moi, je t'ai particulièrement connue et j'ai pratiqué avec toi surtout pendant le confinement. Et je suis vraiment la curiosité de parler de ton expérience de yoga en ligne pendant le confinement et finalement, ce qu'il en reste aujourd'hui et ce que tu vas en faire ou ce que tu veux en faire. Donc voilà, c'est les deux gros sujets du jour. Est-ce que ça te va ?
Bah écoute, ma foi, allons-y, hein, c'est parti. Ça faisait une partie intégrante de ma vie pendant un petit moment, là, donc c'est un bon sujet à aborder.
Donc, Charlotte, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, quelle erreur. Je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans ta vie aujourd'hui.
Ok, donc bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Charlotte, je suis bretonne pure beurre, on va dire ça comme ça, mais j'habite à Nantes. Bon, il y a ceux qui sont pour ou contre hein, le Nantes en Bretagne. Bref, peu importe. Et donc je suis architecte d'intérieur de base. Ça, c'est mon métier. J'ai commencé par ça. J'ai fait des études d'archi à Rennes. Et donc, je suis à mon compte depuis 2 ans maintenant. Et je suis donc prof de yoga, bien sûr, à côté, mais qui aujourd'hui prend une grande part dans ma vie, même voire un peu plus que beaucoup plus même que l'architecture d'intérieur. C'est un choix, hein, c'est un choix perso, même si j'ai toujours l'archi à côté. Donc voilà, j'ai envie de dire à côté, sinon je suis une droguée du sport. Je vais pas le dire autrement puisque c'est la réalité. Hein, quand je fais pas de sport, ça va pas très très bien. Donc voilà, le sport fait partie intégrante de ma vie. J'ai fait de la gym pendant 18 ans. C'était vraiment mon sport et ça restera mon sport de toute façon à la base. Donc voilà, après j'ai fait beaucoup d'autres sports, hein. J'ai fait de la course à pied, du fitness, j'ai fait beaucoup de danse aussi. Et aujourd'hui, donc depuis 3 ans maintenant, je suis donc une addicto crossfit. Ce sont des façades, okay. Des passades pardon, de ma vie.
Et alors, dans tout ce sport, justement, et dans ton parcours, comment, évidemment, la question
fatidique. Comment le yoga ou quand le yoga est-il entré dans ta vie et qu'est-ce qu'il t'a apporté au point finalement un jour de faire la bascule vers l'enseignement?
Alors, donc c'était quand j'étais au Sable d'Olonne, parce qu'en fait après mes études d'archi, on m'a directement appelée pour avoir un taf au Sable d'Olonne, donc parce qu'à la base je devais continuer mes études sur Paris, sauf que j'ai pesé le pour et le contre et je trouvais que direct après des études avoir un taf finalement c'était bien plutôt que d'aller m'enfermer sous un appartement sous les toits de Paris, tu vois, pendant plusieurs années pour continuer mes études. Je me disais, hop, je vais avoir mon petit salaire, mon diplôme en poche. Donc, je suis partie au Sable d'Olonne. Je devais y rester 6 mois. J'y suis restée 6 ans. Et donc, en fait, j'ai commencé le fitness. Enfin, j'ai commencé à courir et à faire du run. Et ensuite, je me suis mise au fitness là-bas. Et les personnes qui m'ont connue ont bien vu la personne hyperactive que j'étais et que je suis toujours. Et donc, une de mes amies m'a dit « Tiens, Charlotte, tu devrais tester le yoga, comme ça. » Parce que dans le centre où je faisais du fitness, il y avait donc une prof de yoga qui donnait des cours les mardis et les samedis. D'accord. Et puis bon, je me suis dit « Ouais, pourquoi pas ?» Enfin, clairement, comme beaucoup, beaucoup de personnes, avant que le yoga devienne assez fancy, on va dire, un peu le truc à faire du moment. Pour moi, le yoga, c'était vraiment le truc pour les vieux. Hein, voilà, c'est le truc typique. Le truc pour les vieux où tu chantes des om, où tu dois laisser ouvrir tes chakras, voilà, tout ça. Ouais, non, mais voilà, clairement, enfin, tu sais, tu comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Donc, bref, j'y vais vraiment à reculons, sans rien te cacher. J'y vais à reculons en me disant, bon, allez. Le premier om, j'ai clairement failli me pisser dessus de rire. Voilà. je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Vraiment. Et en fait, pour te dire, c'était une révélation, ce premier cours. Mais vraiment une révélation. J'ai commencé par du hatha. Donc, une prof, ouais. Une prof diplômée, qui n'arrête pas de faire des formations tout le temps. Elle a soif de ça, en fait, si tu veux. Et elle dégage une espèce d'aura incroyable. Et en fait, j'ai été happée par cette discipline. Je peux même pas t'expliquer comment. C'est-à-dire que je pense que ça mêlait le côté physique, tu sais, de la gymnastique, donc le côté, tu sais, posture, tout ça, que je retrouvais ça. Ouais. Et en fait, ça me manquait parce que j'avais arrêté la gym depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que quand tu as un sport de ta vie comme ça que tu as arrêté, je veux dire, t'as toujours t'as toujours le corps a une mémoire, donc tu sais, dès que ça te fait plaisir quand tu fais un pont comme ça, quand tu fais des roues, tu vois. Et là, en fait, je retrouvais des trucs. Alors, c'était beaucoup plus pour le côté physique au début, le yoga que je le faisais, tu vois, le côté je fais des postures, je me tords dans tous les sens. Ouais, voilà. Je comprenais pas le côté spirituel de la chose, le côté méditation, le côté bien-être, tu vois, bien-être mental. Je voyais plutôt le côté performance physique, en fait. Mais sans avoir le côté compétition de la gymnastique. Donc, c'est ça qui m'a plu. J'ai commencé avec cette approche-là. Donc, clairement, voilà, ça a été une révélation pour moi, ce côté où je pouvais me retrouver des sensations, en fait. C'était plus ça, c'était le retour aux sensations physiques, en fait. J'ai découvert le yoga comme ça.
Et du coup, alors je comprends complètement ton ressenti parce que je suis une ancienne gymnaste également. Je reconnais bien ce que tu as pu ressentir à ce moment-là. Et en revanche, donc, à quel moment s'est faite la bascule vers l'enseignement? À quel moment tu t'es dit j'ai envie à mon tour de l'enseigner? Est-ce que tu as pratiqué beaucoup avant de l'enseigner? Comment ça s'est fait?
En fait, si tu veux, donc quand j'étais au Sable d'Olonne, j'ai eu une relation amoureuse qui s'est très très mal terminée. Donc c'est une période, ça a été une période très difficile de ma vie. Et j'ai fait une connaissance à, donc pareil, une prof de yoga qui est en Vendée, qui exerce toujours en Vendée aujourd'hui. Elle m'a dit, tiens Charlotte, si tu veux, elle voyait bien que j'étais pas bien. Elle me dit, ouais, il y a une formation de yoga. Je suis sûre que ça te ferait vachement de bien et tout. Et puis bon, alors, sans rien te cacher, moi, c'était à l'autre bout du monde, quoi. C'était en Inde. Moi, je suis très casanière. Être loin de ma famille, c'est très, très, très compliqué. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. J'hésitais parce que, à la fois, j'étais plus avec cette personne, donc mon ex. Mais je me torturais l'esprit en me disant, je vais partir loin de lui et tout. Alors qu'en fait, c'était fini. Mais ça, c'était le côté un peu pervers de la chose. Bref, et en fait, heureusement qu'il n'a pas réussi à gâcher cette prise de décision de « oui, je vais y aller ». Donc, j'ai fait tout, mes papiers, le visa, blablabla, tout ça. C'est la première fois que je faisais des choses, gérer un truc comme ça pour partir à l'autre bout du monde. Et donc me voilà partie à l'autre bout du monde. Donc, à la base, c'était vraiment pour approfondir ma pratique. Ce n'était pas du tout pour basculer dans l'enseignement. C'était juste pour me retrouver, avoir des réponses à des questions, vider, tu vois, faire le vide de toutes les mauvaises choses que j'ai pu accumuler durant cette période. Et parce que la Vendée tout court a été une période très compliquée pour moi, parce que 6 ans en Vendée, je peux pas dire, cette région m'a apporté que beaucoup de négatifs. Donc désolé pour les Vendéens.
La rencontre avec le yoga au moins.
Oui, au moins, voilà.
Il y a eu la rencontre avec le yoga à retenir de cette période.
C'est ça. Je peux pas dire. Il y a eu des choses très positives, Mais du coup, en tout cas, la rencontre avec le yoga, c'est clair. Donc, je suis restée pour mes 200 heures un mois en Inde.
Alors, tu as fait quelle formation, Charlotte? Je me permets de te demander parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui recherchent des formations. C'est toujours un choix difficile.
Et il en existe tellement.
Donc, toi, c'était laquelle?
Heureusement que j'ai pas eu à choisir. On m'a directement orientée finalement. C'était donc Samyak Yoga. Donc, c'est une école qui est basée donc à Mysore, donc la terre du Ashtanga Vinyasa Yoga. Voilà, exactement, puisqu'il y a le Shala de Charat là-bas, donc le petit-fils de Patabi Joyce qui a inventé le Ashtanga.
Et donc chez c'était une formation d'Ashtanga ?
Alors, c'était une formation de Vinyasa, parce qu'en fait, les écoles n'ont pas le droit d'enseigner le Ashtanga Vinyasa Yoga si tu n'es pas passé par l'école de Charat. Ils demandent une certification par Charat, et normalement, tu es reconnu pour enseigner le Ashtanga que lorsque tu as fait plusieurs passages dans l'école de Charat. Enfin, il y a tout un processus. C'est quand même un long processus pour être certifié. En fait, si tu veux, entre guillemets, tout le monde peut pratiquer le Ashtanga. C'est comme s'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de réel diplôme, si tu veux. C'est une certification et c'est basé en plus sur ta pratique à toi. Il n'y a pas de formation de Ashtanga qui existe, en fait, si tu veux. Et donc, si tu veux, lorsque j'ai fait ma formation de Vinyasa, les profs qui me donnaient la formation ont créé... Donc, c'était vraiment du Vinyasa qui était très accentué à Ashtanga parce qu'ils ont créé leur propre série qui était clairement basée sur du Ashtanga, quoi, tu vois.
D'accord, oui. Donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu nous proposes du Vinyasa Ashtanga.
Le Vinyasa Ashtanga, je sais que je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer par les puristes, mais c'est pas grave, en fait. J'assume totalement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est bien d'inventer des choses aussi.
Mais, exactement.
Non. Après, en revanche, là où pourquoi j'enseigne le Ashtanga aujourd'hui, c'est-à-dire que par contre c'était ma pratique d'avant, le Ashtanga. J'ai pas enseigné le Ashtanga avant de savoir ce qu'était le Ashtanga quand même.
Bien sûr. Et donc cette formation, tu l'as fait pour faire un peu le reset dans ta vie et puis approfondir ta pratique.
Yes.
Et alors, quand est-ce que te vient la fameuse envie d'enseigner?
Ben, en fait, si tu veux, à la fin de la formation, tu as toujours, enfin même pendant le processus de la formation, tu as des moments où tu dois enseigner. Tu donnes des petits cours, tu donnes ne serait-ce que donner des cours juste des salutations au soleil, par exemple, tu vois. Mais à la fin, donc tu as l'examen où tu donnes tu dois enseigner une partie de la série, si tu veux, que l'on a appris pendant ces 200 heures. Et là, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Moi qui étais hyper stressée. Est-ce que je suis pas du tout pédagogue, clairement, moi pour faire en dehors du yoga, en tout cas pour faire apprendre des choses à quelqu'un, ça me saoule, mais à une vitesse pas possible. J'ai aucune patience. Mais alors là, je me suis pas reconnue, en fait. J'ai adoré prodiguer ce que j'avais appris. Et pour tout te dire, quand j'étais en train, parce que moi j'avais la dernière part, on était un groupe de 3, et donc dans le groupe de 3, t'as la première personne qui enseignait la première partie, l'autre la deuxième, et moi j'avais la fin enseignée, donc avec le shavasana, la relaxation, tout ça, pranayama, Tout ça. Et en fait, lorsque les gens étaient en Shavasana, je me souviendrai toujours, t'en as qui ont enlevé leur petit masque, tu sais, pour poser sur les yeux,
ouais.
qui se sont levés, qui ont levé la tête et qui m'ont regardé en mode, mais c'est bien elle qui parle là ? Est-ce que c'est... Parce que tu sais, ils me voyaient comme la nana qui parle, enfin, tu sais, qui est à la fois un peu timide, mais qui parle pour faire rire, qui, tu sais, voilà. Et là, à la fin, je me souviens d'une des élèves qui m'a dit, non, mais Charlotte, mais ta voix était méconnaissable. C'est pour ça que je me suis levée, j'ai regardé si c'était vraiment toi qui parlais. C'était juste fou, en fait. Du coup, c'est vrai que ma voix change. Et pourtant, je reste la même, mais ma voix change quand j'enseigne. Je saurais pas l'expliquer, en fait. C'est de là où, c'est vraiment... Quand est passé ce moment de l'examen où je me suis sentie, je me sens moi, hein, mais je me suis sentie vraiment à ma place, en fait, si tu veux, je sais même pas comment expliquer. C'est assez bizarre.
Révélation aussi.
Ouais, vraiment, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Une vraie révélation, quoi. Donc ouais, c'est vraiment à ce moment précis que je me suis dit, voilà.
D'une formation pour approfondir ta pratique, finalement, tu rentres en France avec. Quelque part cette révélation et cette envie de transmettre et d'enseigner tout de suite. Alors du coup, comment ça se passe ?
Alors, pas d'enseigner tout de suite, parce que j'ai adoré enseigner là-bas, parce que t'es vraiment dans une ambiance qui est, c'est hors du temps, si tu veux. Tu oublies tout ce qui se passe autour. T'as des gens qui sont vraiment ancrés dans ce truc du yoga, dans ce truc d'enseignement, dans voilà. Quand t'arrives en France, c'est une autre histoire. Là, tu te prends une bouffée d'ondes négatives dans la tronche, tu comprends rien, quoi. Enfin, c'est retour à la réalité. Donc moi, je retrouve mon taf d'archi derrière mon ordi, nanana, tout ça, et je sentais bien que quelque chose s'était passé aussi, quoi. Et c'était pas tant sur le fait de vouloir enseigner ou changer de vie, c'est-à-dire que je me retrouvais plus, en fait. Je me retrouvais plus dans ce truc-là, quoi. C'est ça, quoi. Déjà que j'étais pas très bien avant. Là, je me suis dit non. Là, le retour à la réalité est beaucoup trop. C'est une grosse claque, quoi. Donc non, j'ai démissionné en gros et je suis partie refaire ma vie ailleurs.
Ouais.
Donc voilà. Donc je suis venue à Nantes, hein, parce que j'ai rencontré mon chéri aussi entre temps. Et donc, je suis venue habiter à Nantes direct. Et donc là, j'ai lancé ma boîte d'archi. Et en fait, donc j'ai commencé le crossfit aussi. Et c'est-à-dire que sans mon chéri, je ne serais sûrement pas là en train de te parler à l'heure actuelle, tu vois. Non, il a joué vraiment une grosse...
C'est lui qui t'a poussé...
Ouais, vraiment. Je suis quelqu'un...
Soutenu, je dirais, plutôt.
Ouais. Tu sais, je suis quelqu'un, j'ai énormément d'idées. J'ai 10 000 idées à la seconde, mais par contre... il me faut un coup de pied au cul, il faut quelqu'un pour me pousser, en fait. J'ai du mal à lancer les choses parce que cette peur, parce que j'en avais déjà parlé, mais tu sais, cette peur de la déception, de mal faire, toujours ce truc de perfectionnisme, tu vois, c'est très compliqué. Ça, c'est un truc qui est très compliqué chez moi.
Soit de démarrer et de faire quelque chose de parfait tout de suite, soit de faire quelque chose et de te dire ça va être un échec, du coup, tu démarres pas, quoi.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, ce truc de... Tu sais, c'est un peu procrastiner, mais... Donc, c'est... Ouais, en fait, c'est quand j'ai commencé le crossfit, on s'est dit, tiens, il m'a dit, mais pourquoi tu donnerais pas des cours de yoga au crossfit? Ça pourrait être pas mal, parce que c'est quand même assez complémentaire. Tu vois bien que t'as des... Tu vois bien, les crossfitters sont des bâtons, quoi. Il faudrait un petit peu de souplesse, qu'ils deviennent un peu des bambous. Tu vois, un petit peu plus. Et du coup, j'ai commencé comme ça, en fait, à enseigner mes premiers cours de yoga, finalement... Ça a été donc du vinyasa. J'ai pas donné des cours de ashtanga de suite parce que ça, je le gardais pour moi au début. Ouais, voilà, en tant que pratique perso. Et donc j'ai commencé comme ça.
Finalement, c'était un peu par opportunisme.
Ouais.
Ce qui veut dire aussi qu'il faut être. Alors, même si t'as été soutenu dans la démarche par ton chéri, mais ça veut dire que malgré tout, quand on revient avec cette certification et cette envie d'enseigner, c'est aussi d'être à l'affût de toutes les opportunités finalement qu'il peut y avoir autour de nous, et puis de commencer par ça. Enfin, faut commencer par quelque chose, mettre le pied à l'étrier.
Oui.
Donc, c'était des cours, du coup, organisés, rémunérés, ou tu l'as fait, par exemple, après un cours de crossfit ou en marge d'un cours de crossfit, comme ça, juste pour voir au début, ou comment ça s'est organisé ?
Donc en fait, on a fait, c'était un cours régulier, donc le groupe a grossi de plus en plus, et en fait, c'était surtout un deal, tu vois, genre je donne un cours de yoga et je vais au CrossFit gratos, quoi. Tu vois, en gros, c'était ça.
Ok.
Voilà, okay. C'était un deal comme ça. Ouais. Ouais. Et mais alors, par contre, je reviens juste au petit sujet d'avant, oui. C'est-à-dire que, par contre, chapeau, j'ai envie de dire chapeau pour les personnes qui font une formation yoga et qui direct se disent hop, moi je vais créer mon école, je vais enseigner direct. Oui. Mais moi je, perso hein, je me sentais pas du tout légitime hein. c'est pour ça que je reculais, oui. En fait le moment, tu vois,
oui, oui.
Parce que je me sentais pas du tout capable, et pour moi en tout cas, enfin ma vision des choses, tu ne peux pas enseigner si tu n'as pas eu une pratique avant, enfin pour moi c'est impossible. Mais après, c'est mon point de vue. Peut-être qu'on peut me donner des raisons, on peut me contredire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en tout cas, moi, c'est mon opinion, c'est perso. Mais si tu n'as pas une pratique avant, je ne vois pas comment tu peux enseigner le yoga, en fait. Pour moi, c'est impossible. C'est primordial de sentir ce qui se passe dans ton corps avant de pouvoir prodiguer les sensations, le mécanisme de la posture.
Donc toi tu commences par ces cours avec tes crossfitters.
Oui, mes bâtons rigides.
Tes bâtons à transformer en bambou.
Et, ouais, vite fait. Hein.
Et comment ouais, vite fait. Et comment on passe du coup de ce début d'expérience où finalement tu deals tes cours à aujourd'hui une activité presque à plein temps, enfin en tout cas que tu mets sur le devant de la scène dans ton quotidien. Je crois que tu m'as dit la dernière fois que tu avais près de 14 créneaux de cours semaine, et on parle pas d'heures hein, puisque ce sont des créneaux.
Non, on parle pas d'heures.
Parfois des cours d'une heure et demie jusqu'à deux heures.
Jusqu'à deux heures, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Donc, comment on passe de ces débuts à ce que tu fais aujourd'hui?
Finalement c'est aussi grâce au CrossFit, j'ai envie de te dire. Donc merci le CrossFit. Bah ouais, en fait merci le chéri quoi, j'ai envie de dire, tu vois, à la base. si tu veux, c'est une amie que j'ai rencontrée au CrossFit qui m'a dit un jour: "Oh Charlotte, j'ai vu une annonce sur Facebook qu'un studio de yoga recherchait une prof de yoga." Je fais « Oh, écoute, ok. » Mais vraiment, sans aucune attente, je suis allée voir cette annonce. J'ai envoyé un mail sans aucun espoir. Hein. Vraiment, tu sais, j'attendais rien du tout de ça, quoi. J'ai envoyé donc un mail, comme quoi j'avais fait une formation, blablabla, que je cherchais aussi, à enseigner. Mais je te dis, j'étais toujours pas sûre de moi, donc... Et donc Meryl m'a répondu. Donc Meryl, c'est celle qui a créé l'association Nava Yoga, donc là où je bosse aujourd'hui. Et en fait, on s'est rencontrés. Avant de se rencontrer, on a un petit peu échangé par mail et tout ça. Et donc elle m'avait demandé si j'avais éventuellement un support, si je pouvais lui envoyer quelque chose pour lui montrer un petit peu ma façon de pratiquer, hein, tout ça. Et je lui ai dit que aussi je faisais des vidéos sur Yogi Lab, la plateforme en ligne qui propose des cours de yoga. Et elle me dit, est-ce que tu voudrais pas m'envoyer une vidéo de Yogi Lab pour que je vois un petit peu ton enseignement? Et en fait, j'étais hyper gênée parce qu'en plus, c'était mes débuts aussi sur Yogi Lab. Et alors, moi, au début, devant une caméra, c'était une catastrophe. Enfin, tu sais, je me sentais pas à l'aise. C'était horrible. Donc, voilà. Et je lui ai dit, écoute,
c'est bien,
Meryl,
c'est un message d'espoir.
Ah ouais, quoi, vraiment. Mais vraiment.
Tout peut évoluer.
Ah oui, non, mais clairement, au début, tu sais, t'as l'impression que tu parles à personne, mais t'es devant la caméra, t'es toute seule et tu t'adresses à des gens, mais tu les vois pas. C'est trop chelou. Enfin, bref.
Ouais.
Et c'est assez intimidant, en fait. Ensuite. Je lui ai dit, je lui ai dit, écoute Meryl, est-ce que ce serait pas plutôt plus sympa pour nous deux que éventuellement, si t'as un créneau de libre, je puisse peut-être animer un cours en fait chez Nava Yoga. Elle me dit, tiens, ça tombe parfaitement puisque une des profs est absente ce jour-là, elle cherchait à être remplacée. Je suis parfait, un vinyasa, blablabla. Donc en fait, ça commence comme ça. Je remplace sur un cours de vinyasa. Et puis, bah, écoute, ça s'est super bien passé. Voilà, après, elle m'a fait un petit débrief. Hein. Elle m'a dit les trucs cool, elle m'a dit les trucs moins cool. J'étais complètement ouverte à ce qu'elle me disait, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Il n'y a pas que le positif pour avancer. Hein. Le négatif est aussi une bonne chose.
Point d'amélioration.
C'est exactement ça. Et donc, cette première chose s'est passée. Et ensuite, elle a voulu voir ma pratique aussi, parce que pour elle, c'est primordial. Elle veut absolument, avant de recruter une prof, observer la pratique de cette personne. Donc, je suis allée...
C'est intéressant.
Oui, clairement. Enfin, pour elle, il y a beaucoup de studios de yoga qui recrutent comme ça sans savoir, sans connaître, juste parce qu'elles ont besoin de monde, elles ont besoin de diversité en termes de type de yoga. Non, elle, c'est très précis. Le Nava Yoga, en fait, c'est une école qui est à la base accentuée que sur le Ashtanga. Voilà, c'est une école traditionnelle Ashtanga. Mais elle a quand même voulu mettre un petit peu de vinyasa, tu vois, du yin et des postures beaucoup plus posées comme du yin et du restauratif. Et donc, je suis venue à un de ses cours hyper tard, là, le jeudi soir. Là, c'est son cours le plus avancé, niveau 3-4, là, je crois. Et donc, bref, j'ai pratiqué avec elle. Et puis bah là, en fait, on a parlé, je crois que le cours se terminait à 21h30 et tout. On a parlé jusqu'à 23h dans le studio. Et alors déjà, j'ai rencontré une personne juste exceptionnelle. Ça a été une révélation aussi avec cette personne. Et en fait, donc ça s'est très, très bien passé. Donc voilà, c'est terminé comme ça. On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. Elle me renvoie un mail, tu vois. Elle me dit, écoute, voilà, j'aimerais bien que tu viennes enseigner chez Nava Yoga. Donc, pour moi, ça a été une consécration. Ça a été la consécration.
Dans ce studio.
Parce que tu vois, quand tu fais ta formation, que tu n'attends rien de personne, ni de toi d'ailleurs, parce que c'était vraiment que pour moi à la base, bien en fait, tu te dis, je peux peut-être faire quelque chose de ce que j'ai appris, je peux peut-être faire quelque chose de moi, en fait, là-dessus. Un truc dont je me sentais incapable au début. Enfin voilà, parce que je suis quelqu'un à la base qui, tu sais, je travaille, tu sais, en tant qu'architecte intérieur, tu es sur ton ordi, tu fais, t'as tes idées, tu mets ta matière grise en œuvre pour créer des choses pour des gens, mais tu sais, tu te révèles pas, t'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de t'ouvrir, peut-être. Et là, comme dit une pote à moi, c'est dur ce genre de métier parce que finalement, t'es mise à nu, quoi. Tu vois, t'es mise à nu devant des gens.
Chaque jour, c'est un nouveau challenge aussi, quoi.
Les gens te regardent. C'est pas pour faire peur hein, aux personnes qui veulent être profs, mais, mais clairement, il faut quand même avoir...
Non, mais comme quoi, il faut vraiment avoir cette envie, savoir que c'est un challenge qu'on va avoir tous les jours à relever, finalement. Ça demande de l'énergie, ça demande d'être...
C'est exactement ça. Puis tu fais aussi en fonction de... Enfin, je veux dire, des fois, t'es pas bien. Il y a des fois où t'as pas envie, mais... En fait, tu dois aussi faire face à tout ça. Mais alors, je pense que les élèves te le rendent bien et t'arrives à passer au-dessus. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être dans une bulle. En tout cas, quand j'enseigne, j'oublie tout ce qui se passe à côté. Ça, c'est sûr. Donc, pour moi, c'était vraiment une consécration de d'enseigner dans un vrai studio de yoga, quoi. Tu vois.
Donc, en fait, finalement, à la base, tu avais juste répondu à une annonce. Après, tu as quand même été... récapituler les étapes du processus pour les jeunes profs qui souhaitent enseigner en studio. C'est donc déjà d'être à l'écoute du marché. Et puis ensuite, tu as quand même été force de proposition parce que tu as aussi proposé d'animer un cours. Plutôt que juste de se vendre, entre guillemets, ou de se présenter avec son petit CV de yoga, c'est de montrer aussi son savoir-faire ou en tout cas ce qu'on peut apporter et au moins d'être jugé sur pièce, entre guillemets.
C'est ça.
Et comme ça, chaque partie sait ce qu'il en est et c'est comme ça peut-être que naissent les plus belles collaborations.
Exactement.
Plutôt que, comme tu disais, juste je t'embauche, j'ai besoin de toi, j'ai plus besoin de toi, quoi.
C'est exactement ça.
C'est valable à la fois pour les profs qui veulent trouver un studio pour enseigner, mais aussi pour les gérants de studio, qui peuvent avoir, en ayant cette démarche, du coup, les recrutements sont de qualité et c'est meilleur pour tout le monde, quoi.
Bah, moi, je trouve en tout cas, parce que je connais beaucoup trop de studios de yoga qui, en fait, si tu veux, le yoga est tellement devenu un business. Pour moi, il y a des types de yoga, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça existe. Enfin, après, pareil, hein, je vais sûrement me faire huer, mais pareil, je m'en contrefiche. Mais tu vois, il y a tous les types de yoga. Enfin, pour moi, il y a des yogas de base, en fait, tu vois, il y a des
Oui.
racines, tu vois. Et quand t'entends parler de certains types de yoga, pour moi, c'est... Waouh, j'ai du mal à comprendre. Restons simples, quoi, tu vois, c'est ça que j'ai envie de dire. Et je trouve qu'aujourd'hui... Alors, tant mieux, mais pour moi, ça veut dire que c'est plus du business qu'autre chose. C'est-à-dire que, en fait, beaucoup de studios surfent sur la mode du... Je prends plein de types de yoga, plein de profs qui savent faire plein de types de yoga, comme ça, je propose plein de choses. Mais des fois, vaut mieux... Tu sais, less is more, comme on dit, en fait. Ça, c'est un truc que j'ai appris en archi. C'est une phrase d'un architecte, si tu veux. Mais le plus est l'ennemi du moins, en fait. Tu vois, c'est un peu... Des fois, il faut savoir se cantonner à un truc, mais bien le faire plutôt que de s'éparpiller dans plein de choses. Et je trouve ça dommage des fois d'embaucher plein plein de profs de yoga. Ils sont peut-être très bien, il n'y a pas de souci, mais des fois, il faut savoir aussi juste connaître la personne avant de savoir juste la pratique. Et juste parce que tu sais qu'elle fait un type de yoga différent que tu vois pas partout, bah ça va être cool. Donc, des fois, enfin, pour moi, c'est la personne qui compte avant tout, la personnalité, le feeling, parce que pour moi, il n'y a pas à tortiller le feeling, ce que peut dégager la prof, c'est beaucoup plus important que le type de yoga, le nouveau type de yoga à la mode. Tu vois ce que je veux dire?
C'est clairement ce qui va engager les élèves en plus à moyen et long terme, hein. C'est pas la
Clairement.
diversité, c'est effectivement
Non.
ce lien de connexion qui va se créer avec le professeur, ça c'est clair.
C'est
Donc ouais,
certain.
c'est super intéressant. Entre le studio et le CrossFit, tu as parlé de Yogi Lab. Donc Yogi Lab, c'est toi qui as fait la démarche, c'est eux qui sont venus te chercher, parce que du coup, c'était entre les deux, ça.
Oui, ça c'était entre les deux. Alors non, c'est Tiffen donc qui a créé Yogi Lab. Elle avait
Oui.
donc elle faisait son, elle était toute seule au début et en fait elle est venue me parler. Donc c'est elle qui est venue me démarcher et c'était rigolo parce qu'elle dit ouais, j'ai jamais osé venir t'envoyer un message et tout. J'avais trop peur que tu refuses. En fait, elle avait jamais demandé à personne. En fait, je suis la première à qui elle a demandé pour faire une collaboration
Elle t'a contacté par quel moyen?
par
Comment elle t'a
Instagram.
connue?
Par
Ok.
Instagram. Ah bah, ouais, elle m'a connue via Instagram. Et en
D'accord.
fait, voilà, elle m'a démarché comme ça. Elle osait, ça faisait des mois, après, enfin, ce qu'elle me disait, ça faisait des mois, un moment qu'elle voulait me demander. Elle avait jamais osé. Donc, du coup, ça a fonctionné comme ça au début. Et puis, bah, voilà, j'ai commencé les cours en ligne avec Yogi Lab.
Ok, mais c'est super intéressant en tout cas et inspirant. Alors on voit aussi que bah voilà, hein, faut savoir saisir peut-être pour en vivre en tout cas au début aussi bah, plusieurs opportunités
Ah bah il
et
faut faire des
parce que
tests,
j'ai
hein.
ouais voilà c'est ça faire des tests c'est un bon résumé
Yes.
et alors du coup ça serait quoi tes conseils ou un conseil en tout cas pour débuter et l'erreur à éviter?
Alors déjà, ne pas se précipiter en fait. Déjà, quand tu as fait ta formation, tu vois... Ne pas se précipiter, vraiment réfléchir parce que le yoga c'est un monde hein, enfin c'est quand même difficile, c'est physique, c'est physiquement dur, c'est mentalement aussi c'est difficile parce que comme je disais hein, tu dois toujours être bien en fait et il y a des fois c'est pas facile, il faut penser à ça aussi. Après, tout dépend du nombre de créneaux que tu as aussi, hein. Ça aussi, ça, c'est variable. Mais en tout cas, enfin, moi, l'année dernière, j'avais que trois créneaux hein, chez Nava Yoga, et là, j'en ai 13 jusqu'à 15. Et ça dépend quand j'ai des ateliers, tout ça aussi. Hein. Donc voilà, c'est pas se précipiter. Je dirais au début, ce qui est bien, c'est peut-être. Moi, j'ai commencé aussi comme ça à donner des cours à des amis, tu vois. C'est pas mal pour commencer parce que ça te permet de tester aussi ta capacité à t'exprimer, à être clair et audible, tu vois. Et surtout ne pas comment dire ne pas avoir peur dans le sens Bah, au début, en fait, tu vas forcément te foirer, quoi. Moi, je me souviens, hein, j'ai bugué, combien de fois je buguais dans mes phrases, et tu te dis, putain, mais fais chier, j'y arriverai jamais. Et en fait, au final, ça devient naturel. Mais par contre, ça prend du temps, et il faut pas se le cacher, ouais. Ça prend du temps de trouver son style. Parce que, en fait, il n'y a pas de... Chaque prof est différent, hein. Il n'y aura pas d'enseignement qui vont se ressembler en fonction de chaque personnalité différente. Donc, il ne faut pas chercher surtout à copier les autres, en fait. Tu vois aussi ce que je veux dire? Il faut vraiment qu'au fil de tes essais, de tes erreurs, de tes réussites, il faut vraiment que tu
affines ton style
et ta manière de vouloir faire ce qui te paraît juste pour toi et ce qui te paraît fluide, tu vois, ce qui te paraît cohérent avec toi-même, en fait, tu vois, te sentir bien dans ta manière de faire. Donc il faut être patient avec ça, en fait, il faut être patient parce que moi je me souviens au début j'ai eu des critiques sur certains trucs et je me suis dit il faut prendre les critiques comme des conseils, tu vois. Mais voilà, être patient parce que ça vient pas du jour au lendemain. Voilà quoi, clairement.
Et est-ce que justement, on parlait tout à l'heure, par exemple, pour Yogilab, tu as dû faire des vidéos face cam finalement, mais en enregistrement, donc seul. Est-ce que ça justement, quand on commence à enseigner, c'est un bon moyen de s'entraîner, de répéter, ça n'exclut pas le fait de donner des cours, comme tu dis, à des amis, parce qu'on a du répondant en face et c'est pas pareil. Mais justement, d'ajouter à ces petits cours à droite, à gauche, de la pratique vidéo, est-ce que ça peut aider aussi peut-être plus vite, même si on a compris que voilà, il fallait savoir être patient, mais est-ce que ça peut améliorer entre guillemets notre dextérité dans l'enseignement quand on s'entraîne en plus en vidéo quoi?
Oui, alors c'est vrai que du coup j'ai vu vraiment une évolution sur mes vidéos Yogilab et d'ailleurs j'ai eu des retours de certaines élèves qui me suivent beaucoup sur Yogilab et qui m'ont dit qu'elles voient les vidéos d'aujourd'hui, bien qu'en ce moment je fasse plus de vidéos pour Yogilab, ça c'est un choix aussi, et les vidéos du début en fait. Ça, c'est aussi dû au fait que, à côté, mon enseignement a aussi évolué, tu vois. Donc, forcément, je me sens plus à l'aise à donner des cours aussi en vidéo. Enfin, tu sais, c'est pas que les vidéos, le fait de faire et refaire des vidéos qui m'a permis d'être plus à l'aise. C'est aussi, voilà, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite autour, quoi. Mais, oui, au début, je peux te garantir qu'au début, ma vidéo, des fois, même une vidéo de 45 minutes, je pouvais la recommencer 5 fois, quoi. Et je peux te dire que t'es fatiguée. T'es fatiguée. Et en fait, au fil du temps, tu te dis, mais en fait, c'est pas grave, je peux couper, en fait, la vidéo, je suis bête. je peux m'arrêter, faire une pause et me dire, bon, là, j'ai besoin, je sens que je vais bafouiller ou je sens que ça va plus, que j'ai trop chaud, j'arrête. Et puis, de toute façon, il y a un montage qui est possible, donc c'est pas grave. Au début, je me prenais la tête à faire des vidéos, mais parfaite, et voilà mon souci de la perfection. Il fallait pas qu'il y ait un mot de travers. Dès que je bafouillais, j'arrêtais alors que j'étais à 30 minutes sur les 40 que je devais tourner. Non, je recommençais tout. Donc oui, par contre, toi, ça t'apprend. Hein. Clairement, ça t'apprend. Hein. Ça t'apprend aussi à être plus indulgente envers toi-même, tu vois. Parce qu'au fur et à mesure, t'en as marre de te dire « faut que je refilme ». Et en fait, oui, clairement, c'est un bon apprentissage, je trouve. Effectivement, ouais, je trouve ça bien.
C'est un super tips, et j'en ai parlé, je ne sais plus si c'est dans mon podcast sur YouTube ou la lettre que j'ai envoyée à mes abonnés, en expliquant justement comment tourner ces vidéos et de le faire par mini-séquences en fait, qu'on vient ensuite faire au montage, ce qui permet d'avoir aussi beaucoup plus envie et d'y aller plus facilement que de se dire « oh là là, je dois enregistrer un truc de 45
c'est
minutes,
exactement
si je crois à la trentaine ». Voilà. Donc j'ai recommandé effectivement en termes de technique de prévoir des séquences courtes, de checker, ok, tout va bien, de recommencer, continuer. Voilà, c'est quoi le prochain set, 5 minutes, hop, je m'arrête, 5 ou 10 minutes et puis de gérer.
Et tu vois, ça c'est un truc, je l'ai appris sur le tas. Ouais, je l'ai appris sur le tas. Je l'ai appris sur le tas parce que même, tu vois, Tiffen cool, de Yogi Lab, elle me disait, hey, mais Charlotte, elle fait, t'inquiète pas, si ta vidéo, elle est pas parfaite, c'est pas grave et tout. Et donc, au début, avant de faire ça, avant de faire les coupages comme ça, les coupages, ça se dit, enfin, les découpes, enfin, bref. Et bien, en fait, même quand je bafouillais, je me disais, ouais, à un moment donné, c'est bon, j'en ai marre de faire la fille parfaite, qui fait pas d'erreurs. Et bien, en fait, tu sais quoi, je laissais mes erreurs sur les vidéos et je me suis dit, tant pis. C'est pas grave. Limite, en fait, ça faisait plus naturel, tu vois, parce que j'aime pas, en fait, les trucs trop rigides. Et en fait, je laissais mes erreurs. Ça peut être un autre tips aussi. Tu laisses tes erreurs. Et j'ai fait plein de vidéos YouTube. J'ai fait énormément de vidéos YouTube, enfin, suivi de vidéos YouTube, où t'as des nanas, elles faisaient des erreurs dans des postures, elles tombaient ou comme ça. Mais en fait, limite, je trouvais ça cool, ouais, c'est ok, ouais, parce que.
Ouais.
Mais c'est ça, parce que justement, en fait, ça rappelle aux gens que, ben. Que ça arrive même aux profs, que ça arrive même aux personnes qu'elles pensent genre parfaites, entre guillemets, quand elles font du yoga. Ben non, c'est faux, en fait. C'est absolument faux. Et ça, c'était le premier tips, en fait. Le fait de rester genre soi-même. Si tu bafouilles, si tu dis chien tête en haut au lieu de chien tête en bas, c'est pas grave, en fait, tu vois. Si la personne, elle te suit parce qu'elle aime ce que tu fais, elle va comprendre et elle va tout de suite savoir ce qu'elle va, elle va aussi connaître la manière dont tu fais tes flows. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est ton style on reconnaît ton style au fur et à mesure. Ouais. Et même à la fin, t'as même plus besoin de regarder la vidéo, tu écoutes juste le flow, en fait, tu vois. Et ça, je l'ai beaucoup eu pendant le confinement sur les vidéos en live, tu vois, quand ça buguait et tout, et qu'il y avait l'image qui était décalée par rapport au son, les filles, elles disaient, mais continue, exact. Continue, on entend ta voix, ça nous suffit, nanana. Bref, et ça...
On a été guidés oralement, en fait.
Ben oui, en fait, c'est ça. Et le tips de couper les vidéos, ça, par exemple, je l'ai fait là, quand j'étais en Bretagne la semaine dernière, quand j'avais fait les petites stories en expliquant que je vous faisais des vidéos. Oui. En fait, je tournais en plein cagnard et à un moment donné, je suais tout ce que je pouvais, je goûtais de sueur. Je me dis, vas-y, là, je peux plus, je vais faire une coupure et je vais reprendre tranquillement. Je vais faire un petit silence, je vais rester en silence en chien tête en bas juste pendant quelques respirations pour pouvoir, tu sais, refaire le coup, enfin le, tu sais, le fait de bien couper la vidéo et de reprendre, de pouvoir reprendre au bon endroit, ou des fois t'as les chiens qui aboyaient derrière, ou t'as le voisin qui était avec la tronçonneuse, voilà, donc tu coupais comme ça et voilà. C'est les petits aléas de la vie. Donc couper, c'est très bien aussi.
C'est un métier, hein, de faire sa mise en scène.
Clairement. Mais bon, je me dis, hop, on va faire ça comme ça, c'est beaucoup plus simple. J'aurai plusieurs rushs et ça fonctionnera, le montage.
Exactement. Merci pour ces tips, en tout cas. Et alors, je profite que tu parles de tes lives pendant le confinement pour faire la transition vers le yoga en ligne. Et que tu nous parles de cette expérience de yoga, de live sur Instagram pendant le confinement. Comment t'as mis tout ça en place? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Raconte-nous le yoga en ligne, en live.
Alors au début, ça m'a apporté beaucoup de stress, je vais pas te le cacher. Beaucoup de stress. Alors en fait, je donnais des cours en ligne à côté sur un groupe privé de notre studio de yoga Nava Yoga, donc avec mes élèves que j'avais en présentiel d'habitude. Donc là, ça se passait très bien puisque je savais qui était derrière la caméra, si tu veux. Donc j'avais rien à prouver, entre guillemets. Alors que même sur Instagram, j'avais rien à prouver non plus. Hein, mais ça, c'est mon côté perfectionniste qui revient, qui ressort toujours. Et en fait, la première fois que je me suis retrouvée en live sur Instagram, mon Dieu, mais... Alors, ça se voyait peut-être pas à la caméra, mais je tremblais, je stressais, je transpirais comme c'était pas permis. C'est en mode, mais on va me juger. On va me juger si j'y arrive pas, mais comment je vais faire? Est-ce qu'ils vont suivre ma pratique? Est-ce que ça va pas être trop dur? Est-ce que ça va pas être trop facile? Parce que le truc, c'est que quand tu enseignes...
La peur du jugement, ouais.
La peur du jugement, clairement. Quand tu enseignes dans un studio de yoga, en fait, c'est par niveau, t'as des cours par niveau, donc tu sais qui t'es en face de toi, tu sais comment préparer ton cours. Et puis après, tu sais, tu connais juste tes élèves, point. Moi, j'ai sur Instagram... Je ne connaissais absolument personne, à part certains élèves que j'avais qui aussi me suivaient sur Instagram. Clairement, j'avais cette peur de me dire est-ce que ça va plaire? Mais après, je me suis mise une pression d'enfer, clairement. Hein. Mais alors que j'avais, entre guillemets, rien à prouver à personne. Je veux dire, si ça plaisait, tant pis. Si ça plaisait pas, tant mieux. Si ça plaisait, tant mieux. Si ça plaisait pas, tant pis, je veux dire.
Oui. Est-ce qu'il y avait des enjeux en plus pour toi, finalement, de le faire?
Mais aucun
enjeu.
Est-ce
que tu avais des enjeux financiers? Est-ce que tu avais des enjeux...
Mais même pas, parce que... Même pas, parce qu'en fait, pour t'expliquer l'histoire, j'ai une amie qui est prof de yoga sur Paris, qui est donc venue m'envoyer un petit message, qu'en fait, je proposais des choses gratuites au début, des choses... Enfin, gratuites, j'ai toujours proposé des choses gratuites, hein, c'est sur donation libre, hein, presque, j'ai proposé, donc voilà, qui est venue me dire, Charlotte... il faudrait peut-être que tu fasses une cagnotte parce que c'est un peu déloyal pour les profs qui proposent du contenu payant. Ouais. Donc ça m'a un petit peu refroidi au début dans le sens où j'ai envie de dire c'est mon Instagram, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de proposer du contenu gratuit, je propose du contenu gratuit. Je vois pas pourquoi elle me dit ouais, même un euro symbolique, tu vois, parce que forcément les gens vont plus aller vers toi que vers les autres qui proposent du contenu payant, mais j'ai envie de dire, rien à voir, quoi. Enfin, les gens, s'ils aiment une personne, ils la suivent, point. Si, même que ce soit payant ou gratuit, bref, je voyais pas trop la raison. Et puis après, c'est là où je me suis dit, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, vu que moi, c'était financièrement, quand t'es auto-entrepreneur, c'est vrai que cette période a été compliquée. Donc, je me suis dit, je vais peut-être me remettre en question là-dessus. Parce qu'elle me disait oui, et puis ça peut mettre un peu de beurre dans tes épinards aussi, quoi. Je me suis dit, peut-être qu'elle a raison au final. Et puis, tu sais, je me suis remise en question dans le sens où après, je me dis, c'est vrai que... est-ce que je fais réellement de la concurrence déloyale? Est-ce que c'est vraiment pas cool pour les autres profs, tu vois? Je me suis dit, effectivement, c'est peut-être pas très cool. Et puis, j'ai pas envie de d'embêter les autres profs, tu vois. Avec ça,
d'être pointé du doigt, quoi.
Ouais.
L'idée, c'était d'être dans le mouvement, finalement.
Ouais, dans le mouvement. Et encore, d'être pointé du doigt, clairement, je m'en fiche. Elles peuvent penser ce qu'elles veulent, c'est pas grave, j'aurais continué à proposer du... Honnêtement, si elle n'était pas venue me parler, j'aurais toujours proposé du contenu sans avoir ce truc de cagnotte. Donc bref, j'ai lancé ma cagnotte, mais vraiment sans rien attendre. Hein. Je me suis dit, si les gens ont envie, ils participent. Par contre, je me voyais pas faire un cours à 5 € ou à 10 € minimum, comme il y en a qui ont pu le faire. Et honnêtement, je ne critiquerai jamais les personnes qui l'ont fait parce que je trouve ça très bien aussi et normal, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi notre taf et qu'on a aussi besoin d'un revenu, et même pour continuer à proposer du contenu, c'est normal, je trouve, tu vois.
Oui, après, donc, ça dépend où chacun en est de sa situation.
Bien sûr.
Effectivement, je pense que chacun a ajusté en fonction de ses besoins aussi et de ce qu'il voulait en faire aussi peut-être par la suite. On a eu des donations... pour des associations, on a eu des donations pour derrière créer des produits numériques ou autres. Donc bon,
c'est ça.
Et puis, je crois que les élèves, et j'en fais partie d'ailleurs, même si j'ai participé autrement, mais étaient contents et sont contents. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer avec l'argent dans le yoga. C'est que quand on a une pratique qui nous fait du bien, qui nous aide au quotidien et que on apprécie l'enseignement qu'on reçoit, on a envie... quelque part, c'est un moyen aussi pour nous de remercier, d'être reconnaissant, d'apporter de la valeur à ce qu'on a reçu. Donc, c'est juste l'argent et la monnaie d'échange pour le faire, en fait, en réalité.
Mais c'est ça.
Mais je pense que c'est ce qui s'est passé aussi dans ta communauté, c'est que tout le monde était au contraire très content, quelque part, de pouvoir te dire merci avec ce geste de donation, en fait, hein.
Ah ouais, et je t'avoue, j'étais assez choquée, choquée dans le bon sens du terme, parce que ça a pris quand même une belle ampleur et vraiment, il y a énormément de personnes qui ont participé. J'ai jamais autant reçu de messages, de remerciements. Il y a eu une espèce de reconnaissance, de gratitude incroyable. Non, les gens ont énormément participé. Je m'attendais vraiment pas à ça, hein, tu vois. Je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. Et tu vois, je me suis dit, c'est cool finalement parce que ça me permet aussi de voir que au-delà du fait que cette cagnotte ait fonctionné, qu'elle ait fonctionné ou pas fonctionné, je m'en fiche. Moi, c'est plutôt que les gens avaient ça comme support pour effectivement me remercier en fait. Et je pensais pas pouvoir faire autant de bien aux personnes. Et moi, c'est juste ça qui m'importe en fait. Tu vois, parce que t'as des personnes qui ont contribué à leur niveau, à leurs moyens, Et d'ailleurs, je remercie tout le monde, toutes les personnes qui ont participé, mais tu as d'autres personnes qui m'ont envoyé des petits cadeaux, des trucs dans le genre. Et j'ai pas besoin de ça en somme, mais tu vois, c'est juste des trucs. En plus, tous des trucs qui étaient faits main et tout. Et puis moi, ça, c'est un truc, ça me touche encore plus. Mais tu vois, juste des fois, des mots de remerciement, des trucs. Enfin, ça a pris une ampleur. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Clairement.
Et comment tu expliques que ça a bien fonctionné, enfin que petit à petit il y a de plus en plus, enfin voilà, t'as décidé d'offrir des lives, ça a pris, les gens sont venus à tes cours de plus en plus, t'en faisais 3 par semaine. Donc ouais. Comment c'est quoi tes petites clés du succès? Pourquoi ça a marché selon toi? Est-ce que c'est parce que t'avais déjà une communauté? Est-ce que c'est la régularité? Est-ce que c'est parce que tu nous sollicitais pour savoir ce qu'on avait envie de pratiquer?
Je pense que c'est tout.
Qu'est-ce qui, selon toi, a fonctionné?
Je pense que c'est tout ce que tu viens de dire, mis bout à bout. C'est-à-dire que, alors déjà, juste tu restes toi-même. Enfin, voilà. Clairement, ça, je pense que c'est pas jouer un rôle en mode, tu sais, businesswoman, ouais. Je vais faire des lives, nanana, tout ça, je vais avoir tant de personnes, nanana. En fait, moi qui ai 14 personnes ou 500 personnes, pour moi, c'était la même chose, tu vois. Et je le voyais, hein, quand je donnais les derniers cours après le déconfinement, j'avais, j'avais au début une quarantaine de personnes, après c'était descendu à 30, à 20, tu vois, mais en fait, je m'en foutais, pour moi c'était pareil, quoi, tu vois. Donc juste, voilà. Et effectivement, c'est le fait de vous solliciter à savoir ce que vous vouliez comme type de yoga, ça me tenait à cœur de savoir ce que vous vouliez pratiquer. Et c'est aussi le fait, parce que j'ai eu beaucoup de demandes, il y avait beaucoup de débutants en fait aussi, tu vois, beaucoup de gens qui ont commencé le yoga pendant le confinement. Au début, je proposais des cours, parce que voilà, mes cours sont dynamiques, sont quand même assez durs finalement, même si je propose des variantes et tout.
Oui, c'est clair.
C'est pas les postures des fois en soi qui sont dures, mais c'est le rythme aussi qui est intense, tu vois. Parce que ça peut être que des postures simples, mais un rythme intense. Et des fois, ça peut être un mix des deux. Et donc, c'est pour ça que, en fait, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais me caler un schéma. La régularité de 3 cours par semaine, ça aussi, parce que les gens avaient un rendez-vous. Parce que je pense que psychologiquement, c'était cool pour les gens, dans cette période difficile du confinement, de se dire, comme un petit peu, j'ai un emploi du temps, tu vois. Oh, j'ai cours avec Charlotte là, je vais avoir cours avec Charlotte là, et j'ai cours avec Charlotte là. Tu vois, comme un petit rythme, en fait. Comme quand les gens vont en sport, ont des rendez-vous, voilà. Tu vois, ça leur permet de checker un emploi du temps, quoi. De faire comme une to-do list. Et en fait, après, je me suis dit, voilà, je vais faire un schéma de cours. Eh bien, je vais proposer le mardi soir un cours pour les débutants, un back to basics. Pour le jeudi, un cours un peu plus avancé, tu vois, un vinyasa flow un peu plus intense avec une posture un peu what the fuck, tu vois, où les gens peuvent un petit peu s'amuser, tu vois. C'est le fait aussi de lâcher prise, tu vois, de s'amuser, comme j'ai toujours dit dans les lives, hein, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on est là pour s'amuser, se prendre du temps, se faire plaisir, quoi. Et le dernier, le dimanche matin, là, c'était plus sous forme d'atelier, tu vois, c'était... un atelier où on va être focus, je vais vous donner des tips, les fameux tips de Charlotte, les tchaks, tu vois, avec les accessoires, tout ça. On va vraiment être focus sur une posture en particulier, et je vais vraiment accentuer sur le mécanisme de la posture, tout ça. Enfin voilà, un atelier, quoi. Donc j'ai aimé en fait aussi accentuer mes rendez-vous live sur ce schéma-là, en fait.
Bah en fait, tu as tout simplement fait une ligne éditoriale pour tes lives. C'est-à-dire que voilà, tu avais un calendrier d'une part, une ligne éditoriale d'autre part. Et donc, forcément, tu as respecté aussi cette régularité. Tu as su sonder ton audience. Donc, du coup, proposer ce dont ton audience avait besoin et ce qui répondait à leurs attentes. Et donc, globalement, on est dans le perfect match. Quand on est sur des propositions comme ça en ligne, t'avais toutes les clés pour réussir tes lives, du coup, en plus, mais... bien évidemment, ton authenticité, tes compétences et ta pédagogie. Mais déjà, dans l'approche, on sait ce qui nous attend, on sait quand, on sait comment, on sait que ça va répondre à ce dont on a envie. Donc, c'était top, quoi.
Ben et ouais, c'est gentil que tu me le dises déjà, que ça ait bien fonctionné, que ça que ça ait plu. Mais tu vois, ça c'est, enfin, en fait, pour moi c'était logique, c'est vraiment venu naturellement entre guillemets. Et je pense que si ça rejoint le fait que quand je donne des cours chez Nava Yoga, j'ai avec mes cours plus avancés, en fait, j'ai une manière de faire. En fait, si tu veux, dans mes cours, je fais un déroulé sur 3 semaines, en fait. Une semaine, parce que généralement, ils ont un cours par semaine, tu vois, les élèves, ouais. À part ceux qui prennent soit en illimité ou 2 cours par semaine, peu importe. Mais quand les élèves ont un cours par semaine, donc une semaine, je vais faire un cours guidé, en Ashtanga notamment. Une semaine, je vais faire un cours guidé. L'autre semaine, je vais faire un Mysore, donc une pratique autonome où je vais être là pour les ajuster. Donc, je ne guide pas. Ouais. Et la semaine d'après, je vais faire un atelier, donc spécifique, focus sur une posture. Et après, je refais ce schéma-là, en fait, tu vois.
D'accord, ok.
Je déroule ce schéma. Ouais. Je déroule mon planning sur 3 semaines comme ça, en fait, que je renouvelle.
Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, les lives, le yoga en ligne, et qu'est-ce que tu vas en faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il y aura une suite ? Est-ce que ça t'a donné des idées, des projets ?
Alors, je vais parler de positif comme de négatif. C'est-à-dire que pendant le... Je vais parler du négatif en premier, comme ça on termine sur du positif. en fait, donc, comme je te disais au début, j'étais donc très stressée pour les cours de live sur Insta. J'avais tout simplement peur que du jugement, en fait, de faire des erreurs, de qu'on me juge, parce que c'est très facile de juger, hein, virtuellement, hein. Je vois combien de fois, pas que du yoga, mais des commentaires que je vois sur des comptes qui n'ont pas lieu d'être. Les gens déjà ont juste que ça à faire de leur vie, en fait, si tu veux, c'est leur kiff de critiquer. Donc moi, c'est vrai que la critique non constructive, c'est compliqué, en fait. Moi, c'est des choses que je comprends pas. Et vu que les gens ne me connaissent pas, ne connaissaient pas ma pratique, ne connaissaient pas mon enseignement, je me suis dit, bah, en fait, mais c'est sûr, je vais pas plaire à tout le monde. Et effectivement, j'ai sûrement dû pas plaire à tout le monde parce que peut-être que mes cours étaient trop durs, trop rapides, trop nanin, trop ceci, trop cela. Bon, après, d'une, c'est pas grave parce qu'il y avait de tout et pour tout, hein, sur Instagram. Heureusement qu'il y avait tout le monde qui proposait plein de lives. Donc, en fait, j'ai envie de dire que pendant le confinement, ça a été assez dur pour moi parce que je me suis mise une pression d'enfer, de toujours trop vouloir bien faire. Et j'ai vraiment été très focus, hein, sur les réseaux sociaux pendant le confinement, clairement, jusqu'à en oublier un petit peu ma vie autour, quoi, tu vois. À un moment donné, je me souviens d'un live qui n'a pas fonctionné à cause de la connexion, parce qu'en fait, les connexions étaient très compliquées parfois, parce que tout le monde se connectait aux mêmes horaires et tout, donc ça buguait. Et sans rien te cacher, je me souviens d'avoir pleuré après parce que je me suis dit, ouais.
Ça a été un drame, ouais.
Ça a été un drame. Et ça se ressentait, hein, les gens me l'ont dit. Hein, et ils ont dit, mais Charlotte, c'est pas grave, c'est pas grave et tout. Même mes amis qui me suivaient m'ont dit, non, mais je te voyais, t'étais pas bien et tout. Ils m'ont pas reconnue. Et en fait, c'était le live notamment sur la pleine lune ou la nouvelle lune. Enfin, moi, c'était sur une lune, là. Et en fait, j'étais tellement mal que de pas pouvoir mettre le live en story après, tu sais, pendant 24 heures. De pas pouvoir proposer ça aux gens, mais j'en étais malade, je te jure, je me suis effondrée en disant, mais c'est pas cool, mais c'est en fait comme si je devais quelque chose aux gens, alors que c'est, en soi, j'avais juste à dire, désolé, ça n'a pas fonctionné, de toute façon, il y a d'autres cours qui vont être en live, donc il y a pas de souci, nanana. Non, alors du coup, le soir, déjà, j'étais crevée, et je suis quand même allée, juste après mon live, je suis allée tourner la vidéo, j'ai retourné la vidéo, j'ai mis mon matériel en place, j'ai tourné ma vidéo pendant 1 heure, je n'en pouvais plus, pour pouvoir la mettre en IGTV ensuite, pour la proposer aux gens. Tu vois, comme si j'avais quelque chose à prouver et à donner aux gens. Et je m'en suis rendue malade. Ah ouais, je m'en suis rendue malade. Donc ça, c'est un peu les dérives. C'est un peu les dérives. Et là, pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans des trucs comme ça, il faut aussi savoir se détacher de ça, et chose que je n'ai pas su faire à ce moment-là, parce que je m'en suis vraiment rendue malade, et clairement les lives, au début, ça a été un peu un stress pour moi, parce que je devais trop tout bien faire, mais vraiment.
Finalement, pourquoi tu as décidé de faire des lives si globalement, tu vois, il n'y avait pas de volonté de ta part au début de faire quelque chose de payant, enfin sur Cagnotte ou autre, et donc finalement tu t'es mis dans une situation qui t'a vachement stressé au début et tout, mais pourquoi t'as décidé de le faire ? Est-ce que c'est parce qu'il y en avait partout et que tu t'es dit, faut aussi que je le fasse ou... Parce que t'aurais très bien pu rien proposer, finalement.
J'aurais très bien pu rien proposer, et je vais t'expliquer très simplement. C'est juste qu'en fait, comme je te dis, hein, l'enseignement fait partie maintenant intégrante de ma vie. Il me fallait ça, c'était ma bulle d'oxygène, de savoir qu'il y avait des gens, que je pouvais faire du bien à des gens derrière leur écran. Et alors, d'une part, parce que moi, le confinement a été terrible pour moi. Hein. C'était clairement horrible parce que je suis quelqu'un de la nature qui aime me promener tout le temps dans la forêt. Voilà, la nature, pour moi...
C'était mon échappatoire. C'était pour te faire du bien aussi à toi.
Franchement, c'était ma bulle d'oxygène de savoir que je faisais quelque chose qui me faisait du bien, déjà parce que je pratiquais en même temps, mais aussi, je savais qu'il y avait des gens qui étaient là, comme si, en fait, j'avais ma classe devant moi, tu vois. Et j'avais besoin de ça. C'est pour ça qu'au début, je te dis, moi, je faisais ça gratuitement. De toute façon, moi, je pourrais tout faire dans ma vie, je pourrais tout proposer gratuitement. Voilà. Mais c'était ma bouffée d'oxygène parce que, sans rien se cacher, pour moi, vivre H24 avec mon chéri, c'est très compliqué. Enfin, je pense que c'est... Enfin, on n'est pas fait... L'être humain n'est pas fait pour être H24 avec une personne. Et moi, il me fallait ça pour mon échappatoire, ma bulle d'oxygène, mon petit cocon. Et j'avais vraiment besoin de me dire, je parle avec des gens en dehors d'être avec mon chéri, tu vois. En plus, en live, ce qui est différent, c'est différent d'une vidéo que tu enregistres et ensuite que tu envoies sur une plateforme en ligne. C'est que là, les gens répondaient, on interagissait, tu vois. Et je savais que vous étiez là et je crois que j'avais besoin de cette présence-là, en fait. C'était clairement pour ça que j'ai proposé quelque chose, en fait.
Ok. Donc, on a vu les côtés plus difficiles de l'expérience. Et donc, en termes de points positifs, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et est-ce que, du coup, quelque part, tu vas donner une suite à tout ça? Ou est-ce que ça t'a donné envie d'avoir d'autres projets par rapport au yoga en ligne? T'en es où par rapport à tout ça?
Bah là, tu vois, donc après, j'avais donné mon dernier cours de yoga là pendant le confinement. J'étais trop triste parce qu'en fait, c'était un petit peu. En fait, ça devenait un peu comme une drogue finalement. C'était trop bizarre. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir. Vous étiez mes élèves, en fait. Et donc après, je me suis dit, non, mais en fait, je crois que j'ai besoin. C'est pour ça que je vous ai reproposé ensuite un cours tôt le matin. Parce qu'en fait, le mercredi matin à 7h15. Ouais. Et cet horaire-là, pourquoi? Alors déjà, je savais que je n'allais pas avoir de problème de connexion. Ça, c'est sûr. Et deuxièmement, parce que moi, les cours avaient repris dans les parcs. Je ne pouvais plus pratiquer, donner de cours sur Instagram le soir ou comme ça. Et puis l'après-midi, je savais que j'aurais pas eu trop de monde parce que voilà, les gens bossent aussi et comme ça. Donc je me suis dit, je vais tester, surtout que ça intéressait certaines personnes de pratiquer tôt le matin aussi. Donc ça, les cours ont quand même pas mal fonctionné le mercredi matin. Les replays ont très très bien fonctionné aussi. Et donc, alors... Un autre point, je dirais, qui mêle à la fois le positif et le négatif, c'est-à-dire que pendant le confinement, j'avais deux fois moins de créneaux de cours, mais finalement, je travaillais deux fois plus. Parce que, alors pourquoi? Donc, chez Nava Yoga, donc les cours que je donnais en ligne sur Facebook, là, j'avais pas grand-chose à préparer parce qu'en fait, c'était des cours de Ashtanga, donc finalement, j'ai rien à préparer en Ashtanga, vu que c'est toujours la même chose. En revanche, là où c'était très fatigant, c'est-à-dire que sur Instagram, j'avais toujours les mêmes personnes qui venaient à mes cours, bien que certaines personnes, donc j'ai eu beaucoup d'abonnés en plus, donc il y en a qui me découvraient comme ça. Mais comme la plupart des personnes revenaient à chacun de mes cours, il fallait que je propose du contenu différent à chaque fois. Donc en fait, mes journées se déroulaient de cette façon, c'est-à-dire que je créais toute la journée des cours. Toute la journée, j'étais en train de créer, de proposer. Donc là, je peux te dire que dans mes carnets, ça c'est cool. J'ai des cours de yoga là qui se sont. Enfin, j'ai écrit des cours de yoga, mais à foison. Là, je peux tourner des vidéos de yoga pendant une année entière, je pense. Donc là, j'ai tout mon support, c'est bon. J'ai d'ailleurs déjà commencé à filmer ces cours-là. Parce qu'en fait, je pense que je vais filmer tous les lives que j'ai fait pour Instagram. Je vais les filmer et les mettre sur YouTube. Et donc, on en vient à la fameuse création de ma chaîne YouTube.
Donc voilà, donc là je vais...
Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis, pardon Charlotte, je te coupe. Vas-y. Prends toujours le relais un peu en termes d'orientation marketing, puisque ce qui est... Enfin, marketing, tu m'as compris, mais ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est de recycler ton contenu. C'est-à-dire que tout le travail que tu as fait pendant le confinement... Finalement, c'est aujourd'hui un gros point fort parce que tu vas pouvoir recycler ce contenu-là. Et donc ça, c'est super. Enfin, c'est un point que je souhaite mettre en avant et c'est un super tips aussi, ouais.
Ah bah ça, clairement, je me suis dit, en fait, l'autre jour, quand j'étais en Bretagne, je me disais, tiens, je vais filmer, parce que j'avais apporté mon matos pour filmer, je me suis dit, bon, alors là, je vais faire ça, nan. Et en fait, j'ai pris mes cours donc, que j'avais fait pendant le confinement, là, et je me suis dit, putain, mais ouais, mais ça... Mais grave, mais ça, mais ça. Mais en fait, je vais clairement filmer tous mes cours de... Oui, parce qu'en plus, les gens ont adoré les replays et les lives et me disaient, ouais, oh, c'est dommage qu'ils soient pas dispo plus longtemps. Et je me suis dit, non, mais en fait, voilà, le truc, c'est de refilmer tous mes cours de live et les mettre sur YouTube, clairement.
Et alors, justement, pourquoi les refilmer? Parce que tu les as gardés, tu les as enregistrés.
Oui, alors pourquoi? Non, alors déjà, je les ai pas... quand tu pouvais mettre le replay sur... en story, en fait, je les enregistrais pas. Je savais pas en fait qu'on pouvait, je savais même pas si on pouvait les enregistrer ou pas. Mais bref, je les laissais juste en story et basta. Et ensuite, le truc c'est que quand je filmais, quand je faisais mes lives sur Insta, je filmais en format portrait, alors que c'est en paysage qu'il faut sur. Voilà. Et donc en fait, j'étais un peu fichue, donc. Je me voyais pas les tourner de suite alors que je venais de le faire. Je me suis laissé un petit timing, un petit laps de temps pour me dire, ah, c'est pas grave, je les tournerai une prochaine fois. Je vais continuer à proposer les lives de toute façon. Et tout est écrit, donc c'est pas grave. Et je préfère. Et en fait, si tu veux, si, c'est ça en fait. Parce que mon chéri me disait, mais pourquoi tu mets pas un autre portable ou un à côté pour filmer en format paysage? Mais en fait, non, je voulais pas. Pourquoi? Là, c'est encore mon côté perfectionniste. C'est-à-dire que pendant les lives, tu voyais bien, je me levais des fois pour aller voir les commentaires. Et en fait, ça, je veux pas. Je veux quand même que ça reste.
Donc, t'es pas encore guéri complètement
non,
du côté
non,
vidéo.
Clairement pas. Clairement pas.
Okay, il y en a encore un petit peu de chemin à faire.
Oui. Même si mes tips de je coupe, non, c'est pas grave, même si je dis des trucs qui vont pas, ça c'est ok, c'est ancré, c'est ok. Mais par contre, non, me lever pour voir les commentaires dire t'as pas réussi là, ah, c'est pas grave, non, il faut que tu fasses ça. Non, enfin, tu vois, c'est pas. Il faut quand même que YouTube. YouTube, ça reste quand même un peu plus, on va dire, pro,
lisse,
tu vois. Lisse, voilà.
Voilà,
même si je reste moi-même, clairement, où je vais faire des petits commentaires en mode « Ouh, j'espère que vous avez chaud parce que moi, oui. » Ça, c'est souvent le truc qui revient. Voilà, non, je vais toujours rester moi-même dans les vidéos YouTube. Mais tu sais, il faut que ça reste un format où les gens, elles se disent « Mais qu'est-ce qu'elle fout en train de se lever, en train de répondre à des commentaires qui n'ont rien à voir ?» Non, tu vois. Donc, non, c'est... Là, par contre, je vais... je refilme.
Par contre, t'as toute ta matière, quoi. T'as tout ton
Voilà, par contre, j'ai tout prêt. Mon contenu déjà prêt. Voilà, mais en revanche, tu vois, c'est ce que j'ai mis dans mon dernier post Instagram. Je voulais des idées pour... même si moi, j'en ai mille, mais c'est juste pour être plus proche de vous aussi et savoir ce que vous voulez éventuellement. Parce que je sais que c'est le format aussi qui intéresse, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps de faire trop longtemps. Donc, il y a des vidéos de 20 minutes, de 30, de 45. Il y en a qui veulent des vidéos de 1h30, tu vois. Et c'est pour ça qu'aussi, j'avais fait...
Et beaucoup d'astuces aussi, j'ai
et
vu.
Et beaucoup d'astuces,
les gens, ils veulent aussi beaucoup de petits tips, des choses... comme j'appelle ça, moi, des quick wins.
En fait, c'est ce que j'ai fait avec mes IGTV sur Instagram. C'est-à-dire que j'ai déjà posté pas mal de, tu sais, les back to basics sur les salutations au soleil. Mais ça, par contre, je les ai filmés en même temps. Là, pour celle-ci, je les ai filmés en horizontal en même temps que je filmais le truc. Donc, celles-ci, elles sont toutes prêtes pour YouTube déjà. J'ai mes tips pour les back to basics. Donc ça, c'est bon. Il faut que je les mette en ligne. Mais bon, j'essaie d'espacer un petit peu les mises en ligne pour que ça fasse du contenu, j'en garde un petit peu pour sur le long terme.
Du coup,
quoi.
Tu publies toutes les semaines sur YouTube?
Je vais essayer de publier toutes les semaines là à partir de septembre, tu vois.
Ton souhait du coup, c'est quoi avec cette chaîne? C'est d'aller, enfin, c'est de créer, développer ta chaîne, ou il y a un autre objectif derrière ou...
De développer ma chaîne, enfin, tu sais, là pour l'instant, je sais pas trop l'ampleur que ça peut prendre sur YouTube. Développer ma chaîne, pourquoi pas? Je vais laisser faire exactement comme je l'ai laissé faire sur Instagram, tu vois. Honnêtement, Instagram, je m'attendais pas à tout ça. J'ai eu pareil Énormément d'abonnés en plus sur Instagram, je m'y attendais pas du tout. Tu sais, genre dépasser la barre des 10K, tu vois le truc.
T'as eu combien d'abonnés du coup sur toute la période du confinement en plus? Parce que t'avais déjà un compte qui était bien suivi avant le confinement.
Ouais, j'étais, je sais plus, je crois que j'étais à 6-7 000, je crois, un truc dans le genre, peut-être même moins.
Ah oui,
je sais
quand
plus.
Même.
Ouais, je crois que j'ai eu entre 4 000 abonnés en plus. 4-5 000, j'en sais rien, je sais plus trop. Ouais.
Truc et dans comment genre. T'expliques ça juste par rapport. Enfin, c'était live en.
Bah, je pense que bah, les gens étaient beaucoup plus sur les réseaux déjà. Donc, tu sais, après, c'est le. Comment dire bah, c'est l'engouement pour le yoga, pour nanin, tous les lives. Nan. Mm. Après, je pense que tu sais, c'est. Je sais pas si c'est l'algorithme Instagram, plus tu publies, plus t'es vu, plus nanin, j'en sais rien. Parce que tu vois, là, par exemple, actuellement, mes followers n'arrêtent pas de diminuer, tu vois. Tu vois, c'est tu sais pas pourquoi, enfin ça c'est, je m'en fiche hein, c'est pas le problème, mais tu sais pas, en fait tu sais pas Instagram. Là je pense que oui, c'est la période qui a fait que on proposait énormément de contenu, donc tu sais c'est ce truc un peu viral quoi, tu vois. Un truc viral depuis et puis après je sais qu'il y a des personnes, notamment Lucille de Porridge Lab, je sais pas si tu la connais. Oui. C'est une entrepreneuse là qui propose des produits trop bons d'ailleurs. bref, et en fait, elle a fait énormément de. Alors, sans que je lui demande rien, parce que c'est une nana qui est juste adorable, elle m'a fait énormément de pubs dans ses stories. Donc, il y a énormément de ses followers qui m'ont suivi sur Instagram pendant le confinement. Et vu qu'elle a 40K, un truc dans le genre, bah, ça ramène du monde. Donc, je pense que voilà, c'est ce truc de. Ouais, c'est viral en fait. Plus tu en parles,
c'est
plus nanin, plus.
Le partage, le repartage sur les autres.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord, ouais. Okay. Donc,
sur
donc
des
voilà.
Gros comptes en fait, t'as été repartagé sur des gros comptes, donc ça t'a apporté
de la visibilité quoi.
Et puis tu publies régulièrement aussi quand même.
Oui, ouais, j'essaye. Voilà, bah, pendant le confinement, j'ai énormément publié. Là, bah, ces derniers temps, je publiais un petit peu moins parce que j'avais repris les cours aussi, que c'était un peu plus difficile, tout ça. Et puis, il y a juste des fois où, en fait, moi, j'aime pas publier pour publier. C'est que quand j'ai des choses à dire en fait. Parce que j'ai pas, voilà, en fait, je suis pas une influenceuse, je suis pas une Instagrammeuse entre guillemets, donc j'ai pas envie de publier pour publier en fait, voilà, j'ai pas envie de mettre des phrases.
Oui, et puis pour l'instant, t'as pas de produits ou de services en ligne ou de programmes en ligne à vendre, donc c'est un compte pour développer finalement ta communauté, avoir voilà ta petite tribu.
En fait, c'est juste
voilà,
ça, et c'est juste parce que
c'est pas enfin. En tout cas, à aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu professionnel.
Aucun. J'ai mon taf. Honnêtement, j'ai mon taf. J'ai mon taf à côté. J'ai mon archi. Tu vois. Là, j'aime bien partager des belles photos. J'aime bien. Voilà. En fait, c'est plus comme un portfolio, si tu veux. Tu vois, c'est pas.
Ouais.
C'est pas à côté business. C'est juste parce que j'adore échanger, parce que voilà, j'adore partager des conneries aussi dans mes stories, tu vois, c'est mon truc, quoi, je suis pas...
Ouais, mais c'est ce qui plaît aussi, c'est ce qui fait aussi que, du coup, t'as des gens qui te suivent et qui sont fidèles, quoi.
Bah ouais, non mais voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, entre guillemets, le fait que ça ait fonctionné, c'est juste aussi, et parce qu'en fait, ben, je reste juste moi, en fait, c'est juste ça. J'ai pas envie de...
Bon conseil
pas envie de faire autre chose.
Effectivement, bah, tu restes toi et en même temps, alors t'es quand même généreuse parce que t'as beau dire ce que tu veux, tu crées énormément de contenu pour ton audience en fait. Hein, donc forcément, on est content. Enfin, je veux dire, quand on veut
pratiquer
du yoga, c'est juste le rêve quoi. Et en même temps, tu nous sollicites aussi beaucoup. Donc tu réponds clairement aux attentes de ta communauté. Donc en fait, même si derrière t'as rien à vendre, forcément, bah, t'as une communauté qui grandit et qui est fidèle parce que voilà, on a ces trois clés-là, quoi. On a l'authenticité, on a l'engagement de nous donner du contenu toujours voilà, de qualité et de valeur. Et on est sollicité en plus pour savoir ce qu'on veut et tu réponds exactement à nos attentes. Donc bah, c'est en fait l'équation parfaite. Pour
bah ouais,
voilà, avoir une belle communauté quoi et voilà
c'est vrai
beau,
que
c'est naturellement
bah ouais mais oui voilà c'est exactement ce que j'allais te dire c'est juste logique en fait pour moi sinon ça voudrait dire que je fais tout pour ma gueule et que les trucs qui me plaisent quoi tu vois
Donc, non.
Mais c'est malgré tout, de ce que tu fais, on peut quand même en tirer des bons tips pour se dire, ben voilà, si je veux aussi, moi, en tant que prof de yoga, me faire connaître, créer ma communauté, développer, voilà, trouver plus d'élèves, etc. Ben voilà, c'est des petites choses comme ça qui fonctionnent. Après, le tout étant de faire avec le cœur, quoi. Hein.
Ben, c'est ça. Ça fonctionne, mais sans le vouloir, en fait. Que ce soit les élèves que j'ai eu en fait qui s'attachent, je pense que toi t'as eu j'ai énormément encore de messages, tu vois, je discute avec plein de personnes et tout, t'as un espèce d'attachement qui se crée, que ce soit un attachement enfin voilà, je vois que les gens ils sont peut-être attachés à moi, mais moi je suis attachée à mes élèves aussi, enfin mes élèves virtuels, et c'est aussi pour ça, je pense, que ça me tient à cœur de vous demander ce que vous voulez, en fait, tu vois, parce que j'ai l'impression que vous êtes quelque part un peu mes élèves, en fait.
Bah super, en tout cas, Charlotte. Et est-ce que donc du coup c'est quoi tes prochains projets, si tu veux en parler? Est-ce que t'as d'autres projets? Je sais que t'as organisé des retraites aussi.
Oui.
voilà. Est-ce que c'est ça, tu t'orientes plutôt vers ça, ou est-ce que t'as d'autres projets dont tu as envie de parler peut-être avant qu'on passe aux petites questions de la fin?
Bah alors forcément les retraites, donc là j'ai fait ma première retraite en juin, donc jusqu'au dernier moment on savait pas si ça allait se faire ou pas, mais écoute, ça s'est fait et c'était un événement juste incroyable. C'était je pense que ça pouvait pas mieux se passer que là, enfin il y avait que des personnes extraordinaires, donc c'était vraiment génial. Et et donc je me suis dit, j'ai eu énorme, quand les gens, en fait j'ai mis longtemps à remplir cette retraite, et bon voilà, je l'ai rempli, et une fois quand j'ai posté les photos tout ça, et j'ai eu énormément de demandes, est-ce que tu vas refaire une date, je me suis dit bon, c'est épuisant, donc j'ai hésité au début, c'est vraiment très 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 épuisant de faire ça, surtout quand c'est ta première et que tu es perfectionniste et que tu veux tout bien faire et que voilà. Donc je me suis dit bon, est-ce que j'en proposerai pas une en septembre? Donc du coup j'ai mis en place c'est chose faite, une en septembre, là, du 25 au 27, le week-end de mon anniversaire, bim, ça tombe bien.
Et notez dans vos agendas.
J'ai noté, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup là j'ai eu au moins mais une vingtaine voire une trentaine de messages dès que j'ai lancé ça sur Insta, et elle était complète au bout d'une semaine et demie, c'était complet, quoi. J'avais des gens en liste d'attente et tout, donc je pensais pas que ça allait prendre un tel engouement, donc je pense, en tout cas c'est sûr et certain que j'en referai l'année prochaine. Là je vais voir en hiver, je sais pas encore, à moins que je trouve un endroit, une opportunité, mais en tout cas c'est sûr que c'est un truc que je souhaite mettre en place, les retraites de yoga, parce que j'aime voir les personnes, j'aime rencontrer, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent du sud, là notamment, tu vois, qui viennent à ma retraite aussi, donc c'est rigolo. J'ai envie de partager, j'ai envie de rencontrer les personnes avec lesquelles je parlais seulement en virtuel via Instagram, parce que la plupart des gens qui se sont inscrites, c'est des personnes qui me suivent sur Instagram, en fait.
Et qui te suivent depuis le confinement particulièrement, peut-être.
Oui, depuis le confinement, d'autres avant, donc voilà.
Enfin, plus assidûment peut-être.
Ouais, voilà.
Plus de connexion, de proximité depuis le confinement.
Exactement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, voilà, ça c'est un truc que j'aimerais vraiment lancer ça, plus de retraites, donc...
Et du coup, pour le continuer à alimenter ta chaîne YouTube et les lives, on peut espérer, je me permets
alors,
de poser la question.
les fameux lives, alors il faudrait que je trouve une solution, parce que c'est vrai qu'à la rentrée, ça va être hyper hard en termes d'agenda. J'aimerais trouver un créneau régulier. Je sais pas si ça sera hebdomadaire, j'en sais rien. Je sais pas trop, mais j'aimerais trouver un créneau sur Insta pour continuer à donner des lives. C'est vrai que ça serait vraiment cool. Il faut que je trouve une solution, en tout cas.
Chouette.
Voilà.
Ok, merci beaucoup, Charlotte, en tout cas, pour tout ce que tu nous as donné là comme pépite, comme tips. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter sur ton enseignement, sur l'enseignement en général, des bons conseils, des erreurs est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, ou est-ce qu'on passe aux petites questions de la fin?
C'est juste juste laisser le temps au temps sur le fait de vouloir enseigner. En fait, moi, c'est vraiment juste ça. J'avais vraiment peur. Je ne savais pas comment faire pour créer mes cours, comment la manière d'enseigner, tout ça, tout ça. Et en fait, ça vient vraiment au fur et à mesure. Il ne faut pas s'inquiéter. Et surtout, il faut se nourrir de tout ce qui nous entoure. Il faut continuer de pratiquer avec des profs. Il faut continuer à faire des ateliers en tant qu'élève. Il faut rester élève toute sa vie. Et pour moi, je dis toujours que le yoga, c'est comme un puzzle, en fait. Tu vas chercher des petites pièces à gauche, à droite, et puis tu fais ton puzzle à toi pour avoir ton propre style, en fait. Mais il faut toujours chercher à se nourrir, que ce soit dans des livres, hein, continuer à faire des formations. Pas forcément des formations de 200 heures, parce que tu peux être enrichi... tout autant dans une formation d'un week-end ou juste de 2 heures dans un atelier, mais continuer à prendre des cours à côté, en fait. Ça, c'est hyper important pour moi parce que ça enrichit ton enseignement d'une manière encore plus flagrante et beaucoup plus positive, en fait, que tout le reste, je trouve. Rester élève, pour moi, c'est la clé.
Eh ben merci Charlotte pour cette belle conclusion. Alors, pour les petites questions, un petit peu du tac au tac, quels sont les maîtres et les profs de yoga qui t'inspirent ?
Qui m'inspirent ? Alors, de toute façon, je peux que dire, Trupta, ça a été mon gourou quand j'ai fait ma formation en Inde. Donc son Instagram, c'est Yogi Trupta. Il y a aussi Stéphanie, donc c'est mon autre prof de yoga qui était là à la formation, Stéphanie Vieux-Kessler. Donc pareil, elle a un compte Instagram.
Ouais, mais tu me le donneras, puis je les mettrai dans les notes de l'épisode pour les auditeurs.
Les personnes qui m'inspirent énormément, c'est Kino, hein. Kino McGregor, c'est sûr, la papesse du Ashtanga Yoga. Laruga aussi, autre papesse du Ashtanga. Et puis une autre, c'est Lotta, qui vit en Suède. David Robson aussi.
David Robson, c'est les tutos d'Ashtanga.
Oui, c'est ça, exactement.
J'adore.
Incroyable, j'adore. Ils sont géniaux, le couple, là. Et puis sa chérie est géniale.
Ok, voilà. Ça marche. Alors maintenant, j'ai une question que j'ai piquée d'ailleurs à Marine Chapon dans le podcast Off the Mat. J'adore cette question. Si tu devais choisir pratiquer ou enseigner ?
C'est dur comme question, ça.
Ouais, j'adore.
Je peux dire enseigner en pratiquant.
oui, je pense que c'est une option, en effet.
C'est dur. En fait, c'est vrai que c'est difficile de répondre parce qu'en fait, les yogas que je pratique et que j'enseigne, en fait, parce que je suis obligée de pratiquer en enseignant pour le vinyasa. Le Ashtanga, là, par contre, j'adore enseigner, parce que j'adore donner des tips. En fait, j'adore ça et j'adore regarder mes élèves. Pour moi, surtout, c'est regarder mes élèves faire. Parce qu'après, je peux donner encore plus de tips. Et ma pratique, en fait, elle est primordiale pour pouvoir enseigner, justement. Donc, en fait, tout ça, c'est un cercle vertueux, en fait. C'est difficile de c'est
bon,
difficile
t'as choisi de dissocier. Enseigner. Ta première réponse, c'était enseigner après.
voilà.
Et ouais, c'est une question traître. Hein. Et choisir, c'est renoncer. Hein. Donc, effectivement, c'est ça. Quand on doit choisir entre pratiquer ou enseigner.
C'est tout compliqué.
Ok, quel est ton livre préféré, Charlotte ?
Mon livre préféré. Alors, déjà, les 4 accords Toltec, ça, c'est sûr, c'est une base. Et Yoga Ashtanga, la première série Yoga Chikitsa. Donc, c'est aux éditions La Plage. Et donc, il y a Linda Munro là, qui est dessus, en fait, sur la page. Et après, il y a le livre Yoga Perfectionnement aussi, aux éditions La Plage également, qui est... ça, c'est un peu ma bible, je l'adore.
Quelle est ta posture préférée ?
Ma posture préférée... Alors, j'en ai deux.
Les deux.
Ouais, j'ai donc Urdhva Dhanurasana, la posture de la roue. Enfin, tout le monde l'appelle le pont, mais en fait, c'est la posture de la roue.
Oui.
Celle-ci, parce que ouverture de cœur, c'est la vie, quoi. C'est la vie, les ouvertures de cœur. Et clairement, les inversions. N'importe quelle inversion, moi, c'est les postures inversées, la tête à l'envers. C'est... Je ne me sens bien que la tête à l'envers. Voilà.
Ouais, ok. Ouais. Je comprends ça.
Voilà.
Est-ce que tu as un rituel ou une routine qui est importante dans ton quotidien, que ce soit un aliment, un sport, une méditation, une pratique Enfin, quoi que ce soit qui te fait du bien, est-ce qu'il y a quelque chose que que tu voudrais partager?
Ah ben moi c'est soit c'est le sport ou alors ou ma pratique de yoga, mais en tout cas c'est soit je vais courir ou sinon tous les jours c'est mon sport quoi, le CrossFit.
Et alors si tu devais compléter la phrase, dans l'enseignement ce qui est difficile c'est...
Dans l'enseignement, ce qui est difficile, c'est... Ah, c'est dur. Dans l'enseignement, ce qui est difficile, comment dire, c'est prendre toutes les remarques, qu'elles soient positives ou négatives, pour te faire grandir dans ton enseignement, dans ton approche de l'enseignement, dans le style qui est propre à toi, en fait.
Et dans l'enseignement, ce que tu aimes, c'est...
C'est les énergies qui se dégagent.
Ok, quelle est ta définition du yoga ?
La définition du yoga, pour moi, c'est une réelle discipline de vie, quoi. C'est pas un sport, hein, déjà, le yoga, c'est une réelle discipline de vie. C'est pour moi un état d'être, un état d'esprit. Je sais que quand je suis yoga, en fait, quand je donne des cours ou quand j'en fais, je ne fais plus qu'un, en fait, si tu veux, tu vois. Je sens toutes ces énergies qui sont là pour me... qu'elles soient positives ou négatives. Même le négatif va me permettre d'avancer, en fait, si tu veux. Donc, c'est pour moi une réelle introspection, en fait. Mais que ce soit pour soi, mais aussi pour les autres, tu vois. Ça te permet de mieux communiquer avec toi-même, mais avec les autres aussi.
Et pour terminer, ton mantra ou une citation qui t'inspire ?
Ah bah sinon, ça c'est et ça sera toujours la même, c'est « Practice, practice, practice and all is coming » de Patabi Joyce.
Hein, Patabi voilà. Joyce. Voilà. J'aurais pu l'écrire, cette réponse.
Voilà, exactement.
Avant y a de pas faire l'interview.
Exactement, il n'y a pas de secret. Hein. Quand mes élèves me demandent « Oui, mais Charlotte, comment je fais pour faire ça ? Mais comment je fais ? Comment je vais arriver à faire cette posture ?» Il n'y a pas de secret, c'est la pratique. Et ils comprennent très bien, parce que quand ils arrivent à une posture, ils ont compris le pourquoi du comment, du coup, de cette phrase.
Et c'est clair, mais vraiment, je me doutais que tu allais me donner cette situation. Et alors, moi, j'en ai une pour toi, c'est que « down is better than perfect ». Donc, voilà, continue à nous donner plein de choses, et même si c'est pas parfait, c'est déjà top niveau et super bien.
Tu sais quoi, je crois que je vais marquer cette phrase parce que... Parce qu'elle me parle énormément.
Voilà,
énormément.
Elle est pour toi, celle-ci.
Non, mais c'est fou que tu me dises ça. Toi. Non, mais clairement, c'est marrant que tu me dises ça, parce que quand j'ai fait ma première retraite yoga en juin, j'ai fait un tirage de cartes pour toutes mes élèves qui étaient là. Et en fait, j'ai aussi tiré une carte après que chacune d'entre elles ait tiré une carte. Et la carte que j'ai tirée, c'était, j'accepte toutes mes imperfections. Ok,
voilà, ouais, tu vois.
Bon. Non, mais c'était juste incroyable, incroyable. Donc là, je te rejoins complètement. Donne merci en tout cas.
Perfect. Voilà.
Yes.
Ça, c'est cool. Écoute, Charlotte, c'est moi qui te remercie mille fois. Merci pour ta générosité, pour toutes les pépites que tu nous as données, pour tous les tips. Et je pense que voilà, les auditeurs seront très inspirés par ton parcours et
j'espère.
Par tous ces bons conseils. Donc mille merci à toi.
Merci à toi, Cécile. C'est cool.
Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec nous. Deux petites choses avant de se quitter. Retrouvez toutes les références de cet épisode et les médias de Charlotte dans les notes de cet épisode. Et dernière chose, ça compte énormément pour moi, même si je sais que c'est un peu pénible pour vous. Mais si vous voulez soutenir le podcast, j'ai besoin de votre note 5 étoiles ou d'un avis pour offrir de la visibilité à Yogi Biz Podcast. Donc je compte sur vous. Encore merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.